Allez, bravo.
C'est sûr. Bon.
Tu fais un test.
Tu fais une présentation ou pas?
Tu peux le monter.
Tout le monde connaît le centre. Peut-être ton ami qui connaît pas le centre.
Non, c'est pas grave. Voilà,
vas-y, puis il y a le président ici.
Bonjour.
Salut, Patrick, président.
Tocamanette.
Donc voilà, tu es accueilli dans le centre Ascasso d'Urruti. Ascasso et d'Urruti, c'est. Ça fait pas, ce sont deux militants anarchistes, voilà, qui sont. L'un qui est mort le premier jour de la guerre d'Espagne et le second, Durruti, peu de temps après. Durruti, en fait, c'est un peu l'icône de la geste anarchiste espagnole. Voilà. Donc le centre, il a été fondé autour du fonds de bibliothèque de Diego Camacho, qui est un historien autodidacte qui a pris comme nom de plume Abel Paz, donc. Et qui a été le biographe justement de Durruti et qui a écrit un tas de bouquins sur cette période, sur les luttes sociales en Espagne, sur la révolution espagnole quoi, de 1936. Voilà. Donc il a légué son fonds de bibliothèque, alors je te passe les détails, mais à un groupe libertaire de Montpellier dont faisait partie à l'époque déjà ici ben, les seuls qui étaient présents là, c'était Laurence et Antoine, parce que les autres étaient des petits nouveaux. Et donc autour de ça, on a créé cette bibliothèque, voilà, qui est un lieu d'échange d'idées, un lieu de débat d'idées, c'est une bibliothèque. Et puis régulièrement, on organise des présentations d'ouvrages comme aujourd'hui, des rencontres, on projette des films. Voilà, donc le lieu fonctionne comme ça depuis peut-être 25 ou 30 ans maintenant.
Depuis 96. Hein.
Voilà. Donc c'est aussi un lieu d'expérimentation. C'est aussi un lieu d'expérimentation libertaire, dans le sens où on essaie de fonctionner d'une manière libertaire. Alors ça ne fonctionne pas toujours magnifiquement bien, mais malgré tout, la preuve, le temps fait que malgré tout on fonctionne, c'est factuel. C'est-à-dire qu'on fonctionne sans subvention de qui que ce soit, le lieu nous appartient, on l'a construit avec nos petites mains et avec nos propres deniers, voilà. Et puis on travaille tous en commun avec... moi je suis président, mais j'ai pas plus de pouvoir que quiconque.
Merci. Voilà. La fois que je viens ici, je connaissais pas. Voilà. Enfin, je connais le quartier, mais je connaissais pas l'endroit.
Donc, y a des livres. On peut les emprunter, bien sûr. On peut venir les consulter. En général, c'est ouvert tous les samedis après-midi, plus quand il y a des manifestations comme ça. Donc, on invite des gens à adhérer parce qu'on a besoin d'adhérents pour fonctionner, malgré tout. On n'aime pas l'argent, mais on en a besoin. D'ailleurs, on l'a écrit sur l'étiquette. De la petite cuvée qu'on va sortir, auquel on t'invite aussi à participer si tu aimes le bon vin. On a sorti une petite cuvée pour financer le voilà, notre lieu, parce que malgré tout, on a toujours besoin d'un petit peu de deniers. Voilà, donc l'adhésion, c'est 25 euros. Et puis, on peut... Si tu donnes tes coordonnées, on t'enverra régulièrement toutes les programmations. Hein. Voilà, les papiers. Voilà, et aujourd'hui, c'est Isabelle Filici qui nous parle de Brassens Anarchiste.
Oui, je vous parle de cet ouvrage, Brassens Anarchiste, en fait, qui est né ici grâce à cause de Patrick, qui vient de prendre la parole, puisque quand j'étais venue, je crois que c'était 2017, présenter l'ouvrage où il était question de Brassens et des origines italiennes de sa famille, ses grands-parents maternels, Patrick me dit « Bon, c'est bien beau, Brassens italien, mais Brassens anarchiste. » Voilà. Donc j'avais commencé à... Forcément, j'avais lu pas mal de choses et j'avais commencé à accumuler un peu de matériel, donc je me suis dit il faut en faire quelque chose pour faire plaisir à Patrick, et parce que c'était une très bonne idée. Et le hasard a voulu que au CIRA de Marseille, où j'ai aussi présenté le bouquin, et je rencontre Fred qui est en train de faire la même chose, donc je me suis dit c'est pas la peine qu'on fasse tous les deux la même chose, etc. Donc on a échangé, collaboré, etc. Il a fait un bouquin aussi de son côté, et puis quand il y a eu le centenaire de Brassens à 7 en 2021, on a fait une soirée sur Brassens italien aussi, avec de la musique. J'avais fait venir un chanteur qui se chante souvent dans les manifestations anarchistes en Italie, qui s'appelle Alessio Lega, et Et on avait fait un colloque donc, auquel ont participé tous les auteurs qui sont, et les autrices qui sont maintenant dans cet ouvrage. Alors, ben, je vais peut-être vous faire la liste, comme ça, ça vous donnera une petite idée. Il y a d'abord Anne Steiner, que vous connaissez sûrement parce qu'elle a fait tout un travail, ben, par exemple, sur Miguel Almeida, le père de Jean Vigo. Elle a travaillé sur les en dehors, sur les inégalistes, les anarchistes individualistes, qui est souvent, c'est un courant qui n'est pas très bien connu, souvent mal vu, parce qu'il y en avait parmi eux qui étaient pour la propagande, par le fait, etc. Donc, mais il n'y avait pas que ça. Hein. D'ailleurs, elle explique très bien dans son chapitre, elle donne elle réduit évidemment par rapport à ses études plus longues, mais ça donne une bonne approche sur ce courant, et elle fait surtout le lien avec l'anarchisme individualiste de Georges Brassens. Le deuxième auteur, deuxième dans l'ordre du classement dans le livre, c'est Sylvain Boulouk, qui est aussi que j'avais fait venir parce que c'était l'auteur d'une des rubriques de la rubrique dans le métron des anarchistes. Et donc lui, il replace, il vient d'ailleurs de sortir une histoire de l'anarchisme, je ne sais pas si vous avez vu assez récemment, et il replace Brassens au sein du mouvement juste avant la Deuxième Guerre, après la Deuxième Guerre, et ce qui est assez intéressant parce que, en fait, Brassens a connu les scissions au sein du mouvement anarchiste. Vous vous souvenez peut-être, 1953, il y a eu la création de... Alors, elle a changé de nom plusieurs fois. Enfin, les communistes libertaires ont, disons... Alors, il faut faire attention à comment on présente les choses. Disons qu'il y a eu deux courants qu'on avait voulu essayer de réunir... après la Deuxième Guerre mondiale, et la réunion n'a pas super bien marché, et donc ça a éclaté de nouveau dans les années 50.
Donc, entre les communistes et les
individualistes. Entre les communistes libertaires et la FA, disons. Donc là, il explique bien l'enchaînement des événements en montrant aussi que ça remonte à avant la Deuxième Guerre mondiale déjà. Hein. C'était, disons que la scission était déjà en acte avant. Puis, alors, arrive le troisième auteur, c'est Frédéric Bory, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a mené tout un travail, lui, sur la période où Brassens était secrétaire de rédaction de l'organe de l'AFA, le Libertaire. Donc, c'est quand même pas rien, hein, pendant plusieurs mois. Il a été d'abord officieusement de... Alors que je ne me trompe pas dans les dates... De l'été 1946 jusqu'à octobre 1946, et il y a eu un congrès en octobre 1946, pardon, et là il a été officiellement voté à l'unanimité comme secrétaire de rédaction du Libertaire. Donc pratiquement c'est lui qui faisait le journal, je pourrais vous dire un peu plus de détails. Et donc ce qu'il a fait surtout, il a fait un énorme travail de lecture du journal, et il propose une liste des articles écrits par Brassens. Donc si vous êtes des inconditionnels de Brassens, vous avez des pages et des pages de Brassens à découvrir maintenant grâce à la liste établie par Frédéric. Voilà, et si je pourrais vous expliquer comment il l'a établi aussi. Donc je continue la petite promenade à travers l'ouvrage. Le quatrième texte, c'est un collègue d'Avignon, Cédric Perolini, à qui, en passant, j'ai enlevé l'accent aigu sur le « et ». Je suis un prof d'italien, donc des fois, ça me démange les accents mal passés. Donc, il était d'accord pour que, exceptionnellement, j'enlève le « et » de son nom, Perolini, sans accent. Voilà, c'est pour la petite histoire. Pour la petite histoire, et il a fait un... Donc, lui, c'est un collègue de lettres françaises, et il a fait tout un travail sur les chansons de Brassens, qu'il a, à partir des poèmes qu'il a mis en musique. Donc il y a une vingtaine de textes de poètes, comme vous savez, très divers et variés, hein, ça va de François Villon à Victor Hugo, Paul Fort, etc. Il y a toute la liste. Et surtout, ce qu'il veut montrer, ce qu'il montre en fait, c'est que le choix de ces poèmes s'inscrit bien dans pratiquement le parcours politique qu'on peut retrouver aussi dans les chansons. C'est-à-dire qu'il a, il a choisi des poètes et des textes qui complètent en quelque sorte son propre répertoire. Et le dernier, donc, ben, je l'ai rappelé tout à l'heure, ben, je suis prof d'italien, donc j'ai demandé à un copain italien dont je connaissais, donc, avec qui évidemment je parlais toujours en italien, puis un jour j'ai découvert non seulement qu'il parlait très bien français, mais en plus que c'était un fanat de Georges Brassens. Et donc je lui ai proposé de venir parler de Brassens vu d'Italie et vu des anarchistes italiens. Et donc il a fait, alors Pippo Guerrieri, je dis quand même son nom, il est le directeur, disons qu'il travaille beaucoup dans la maison d'édition la plus ancienne d'Italie, qui s'appelle la Fiaccola, en Sicile. D'ailleurs, il y a des lettres à Belpasse dans les archives du Salier, je le dis entre guillemets, entre parenthèses. Et il travaille dans le journal Sicilia Libertaria, que je crois vous recevez en échange de presse. Voilà. Et donc, il a fait un travail super sympa. En fait, il a fait un sondage, pas du tout scientifique comme il le dit lui-même, mais en gros, il a envoyé un message aux copains pour demander est-ce que vous connaissez Brassens, comment vous l'avez connu, et est-ce que ça a influencé vos idées, votre façon de voir, l'anarchisme, etc. Et c'est assez intéressant aussi parce qu'il y a un chanteur italien très connu qui s'appelle Fabrizio De André, qui a traduit 5-6 chansons de Brassens, dont souvent les Italiens pensent qu'elles sont de De André et pas de Brassens. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps, c'est amusant. Mais il a été très vite traduit, très tôt, en piémontais, en milanais, et souvent dans le milieu anarchiste aussi, peut-être même trop traduit d'ailleurs, parce qu'il y a des chansons, mais je ne sais pas combien de versions. Et donc il a fait ce Brassens vu par les anarchistes italiens, ce qui est assez sympa aussi. Alors l'autre élément important, je trouve, hein, du volume, c'était un peu un deal avec l'éditeur qui voulait un glossaire, qui voulait une bibliographie, qui voulait une chronologie. D'ailleurs, il y a une petite erreur, c'est celui qui prend le livre dans les mains et qui trouve l'erreur tout de suite, ben, il a gagné, je ne sais pas quoi, mais il a gagné. Et puis surtout, on a mis plein de documents annexes. Évidemment, j'ai essayé de chercher les choses les moins qui circulent le moins sur Brassens, quoi. Par exemple, son dossier de police, parce qu'il avait des fiches aux renseignements généraux, y a son premier article dans le Libertaire, des anarchistes qui parlent de Brassens, comment ils ont connu Brassens, parce que alors là aussi, il y a des versions différentes selon les courants, parce qu'il y a eu, quand il a été très connu, à partir donc. Le succès arrive en 52 et ensuite en 54, à partir de 53 je crois, ou 52 peut-être déjà, il a fait tous les galas en soutien aux libertaires ou à l'écoute libertaire à Paris, ou aussi pour les jours, enfin jusqu'à la fin, même après avec le succès, il a continué à faire ça, hein, toute sa vie, il a continué à donner des concerts de soutien. Et donc, en 54, c'était juste après la fameuse scission dont je parlais tout à l'heure. Et il y a eu deux galas, deux journaux, enfin, et Brassens était au milieu. Et je reproduis aussi un article d'un bulletin du groupe de Bordeaux à l'époque qui raconte ce qui s'est passé. Ils ont arraché les affiches, après ils les ont recollées, après ils les ont réarrachées, après ils en ont plus, enfin... Il se poursuivait à moto, parce qu'il était devenu très vite quand même une grande vedette à ce moment-là. Et il avait choisi d'aller dans un des deux et pas dans l'autre. Voilà. Donc ça a fait un peu couler de l'encre dans les milieux anarchistes à ce moment-là. Et puis, y a des petites notes, voilà, je l'ai dit, le glossaire et les repères chronologiques avec la petite faute à retrouver. Alors j'ai mis aussi certains des articles, vous vous souvenez peut-être, il y avait eu un calendrier Brassens ou Syrah de Marseille, donc j'ai remis les textes qu'on avait mis dans le calendrier, et puis aussi un autre qu'on m'avait demandé pour un Georges Brassens dans les rues de Paris, parce que c'était un texte qui ne circule pas beaucoup en fait, et donc j'avais envie, je vous avoue, de le valoriser un peu parce que j'avais adoré le faire. Et puis il y a aussi, donc je vous le disais tout à l'heure, le premier article Et pour vous donner envie, si vous êtes d'accord, je vais vous le lire. Parce que donc je l'accompagne d'une sorte de... Ben oui, je le replace un peu dans le contexte. Je vous ai dit que Fred avait fait tout ce travail sur la recherche des articles. Donc il s'est appuyé d'abord sur quelques articles qui avaient déjà été publiés, une quinzaine, une vingtaine peut-être, dans les années 80, par un linguiste belge qui s'était basé sur les pseudonymes. Mais en fait, au départ, le journal était anonyme, donc il n'y avait rien de signé. Les pseudonymes, c'est arrivé après le congrès d'octobre, donc toute la période août et octobre, il y a plein d'articles de Brassens. On le sait que c'est lui qui faisait le journal, mais il faut les trouver. Donc il a fait tout un travail en faisant, il a cherché des indices, il a fait des correspondances avec des chansons, il retrouve des expressions, et je lui ai demandé de bien expliquer la façon dont, et évidemment il ne l'a pas fait pour tous les textes, mais il a expliqué sa démarche. Pour que ce soit convaincant aussi, parce que forcément, vous allez voir avec le texte que je vais vous lire, on a quand même une version de Brassens un peu moins édulcorée que parfois celle qu'on peut trouver dans la grande presse ou à la télévision, etc. Donc il fallait que ce soit carré, quoi. Il fallait que ça puisse pas être discuté. Et le premier texte, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, je n'ai pas fait de rappel biographique de Brassens, ce n'est pas la peine, mais peut-être quand même il y a des choses qui sont moins connues, c'est qu'il a voulu, donc quand il est parti au STO, comme des milliers de Français et de Françaises et de Belges, hommes et femmes aussi, qui avaient 20 ans et qui n'avaient pas forcément le choix d'être réfractaires, hein, quand on... Quelqu'un le disait quand j'ai présenté l'ouvrage à Limoges, si vous étiez à la campagne, ça pouvait être facile de se cacher, mais en ville, ce n'est pas forcément évident. Donc bon, il avait 20 ans et 21. Il est parti en Allemagne, au service du travail obligatoire, mais il est revenu en permission au bout d'un an, en prévenant les copains qu'il ne rentrerait pas. Parce qu'évidemment, ceux qui partent en permission et qui ne rentraient pas, ça veut dire que les autres ne partaient plus. Donc en mars 44, il est rentré et puis il n'est pas reparti, ça veut dire que jusqu'en juin... 44, ben, il fallait pas trop qu'il sorte. Et d'ailleurs, la tante qu'il avait hébergée à Paris quand il était monté en 38, disons qu'elle ne tenait pas trop à garder ce neveu en situation illégale. Donc c'est là qu'il a été habité chez Jeanne et Marcel, comme vous le savez. Et donc avec les copains du STO et avec un copain de 7 aussi qui était monté à Paris, comme pas mal de ses copains, il avait eu un projet de journal qui s'appelait « Le cri des gueux ». Et donc, ils avaient toute la maquette, en fait. Hein. D'ailleurs, son copain André Larue publie l'éditorial. Il donne les titres des sujets des journaux, des articles écrits par Brassens, qu'on retrouve, je pense, ensuite dans le Libertaire. Et puis, ils ne trouvent pas d'argent. Et donc, le projet avorte. Et il commence à rentrer en contact avec la FA dans le 15e, ça c'est lui qui le dit, hein, en mai, dans une lettre à son copain Roger Toussenot, en mai, donc 46, j'adhère à la FA, sûrement parce que, donc le Marcel, le mari de Jeanne, parce qu'il y a beaucoup de Marcel, mari de Jeanne, avait fait la Première Guerre mondiale, d'ailleurs il avait été gazé, et il y avait un copain qui s'appelait aussi Marcel, Renaud, qui était anarchiste et qui habitait dans le 15e. Et on pense que c'est par ce biais-là que Brassens est arrivé au groupe du 15e, où il a rencontré par exemple Armand Robin. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de ce poète, là, qui est devenu vraiment une sorte de presque de maître à penser un peu, enfin, qui l'a aidé à compléter sa formation littéraire peut-être, et même politique. Et de là, après là, ça c'est la seule chose que je vous ai dite pour l'instant qui est basée sur des suppositions et pas sur des textes. Parce qu'ils ont, contrairement à tous les autres copains de 7, etc., les copains anars, ils n'ont pas écrit sur leur échange avec Brassens. Et donc là, on suppose que peut-être, ils lui ont dit, bah, écoute, tu sais bien écrire, tu as envie d'écrire, envoie ton article au Lib, comme on disait à l'époque. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a été publié. Et on, alors là, en revanche, c'est les copains de Seth qui racontent que ben, le lendemain, il a été, il a vu son article dans le journal. Il s'est dit, ah, ces anards, ils ont pas froid aux yeux, ils se dégonflent pas. Et il est rentré comme ça en contact avec les gens du Libertaire, de l'AFA et de...
L'AFA, c'est quoi là?
Hein?
C'est quoi la sigle de l'AFA?
Fédération anarchiste.
Ah, à l'époque, de la FA.
Ah oui, pardon, je parle trop vite.
Non, j'ai l'AFA.
Voilà, et donc...
Non, tu ne peux pas te mettre là. Tu ne peux pas te mettre là.
Si,
Non, je ne peux pas.
Donc, maintenant, je suis au milieu de la phrase, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Ça, c'est étudiant qui arrive.
Donc, son article a été
publié. Ah oui, alors voilà, c'est
ça.
Oui, son article, il y en a un qui suit. Merci, on reconnaît les bons élèves. Et donc, on sait que c'est son article parce que le secrétaire du Libre de l'époque, qui était aussi le secrétaire général de l'AFA, qui s'appelait Henri Bouillet, qui va être dégommé après au congrès d'octobre. Mais bon, c'est lui qui le reçoit. Et dans les années 70, il écrit un article pour raconter cette première rencontre. Et il raconte aussi le contenu de l'article. Mais il le raconte de mémoire parce qu'il y a des petites erreurs sur certaines choses, etc. Mais il ne peut pas avoir inventé quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment documenté. Là, on est vraiment sûr que c'est lui qui l'a écrit. Donc, si vous voulez, là, j'ai fait un petit texte en fait pour montrer que déjà, finalement, c'est construit comme une chanson parce que il pose un décor dans un pays imaginaire, etc. Et ensuite, il lui arrive trois histoires, trois fois les mêmes, séparées par toujours le même refrain, finalement, comme vous allez voir. Donc, finalement, il a construit son article comme une chanson. Il en avait déjà écrit plein des chansons. Un peu plus, disons, avant qu'il parte au STO, c'était un peu plus fleur bleue ou un peu, plus romantique. Et puis ensuite, c'est là qu'il s'est aguerri, qu'il a fait ses humanités, comme il dit, et qu'il a aussi, en particulier en lisant les poètes, construit son univers politique. Voilà. Donc si vous voulez, je vous le lis. Un conte policier qui pourrait être une réalité. Sous le ciel d'un pays imaginaire, une très ancienne tradition exige que les membres de la police judiciaire ne brillent pas par leur intelligence. Et cette tradition est encore honorablement respectée, puisque dans certains commissariats, sur une demi-douzaine d'inspecteurs, on ne compte pas moins de 10 imbéciles, par le fait que 4 d'entre eux le sont doublement. Sitôt qu'un individu a démontré formellement par A plus B qu'il était absolument incapable de devenir maçon, peintre, ferblantier, marchand de marron ou étrangleur de vieilles rentières, sans faire de chichi, on s'empresse de l'introduire dans la police. Une seule condition est requise, l'imbécilité totale. Seulement, attention, il faut obligatoirement que le postulant la possède et la fournisse à l'appui de sa demande. Sinon, il aura beau se démener, se faire même patronner, on ne lui ouvrira pas les portes, car les recruteurs sont incorruptibles. Incorruptibles, mais pas infaillibles. Il convient d'avouer qu'il se laisse parfois prendre à un abrutissement fin, à un masque de balourdise. Bref, qu'ils admettent dans leur sein un type presque intelligent. Mais cette catastrophe se produit si rarement qu'il n'y a pas lieu de s'en tourmenter. Au reste, après un contact étroit de quelques semaines avec l'agent policière, l'abrutissement du simulateur est parvenu non seulement à égaler celui de ses chers collègues, mais à le surpasser. Pour atteindre à la perfection, il ne lui reste plus qu'à devenir menteur, fourbe, hypocrite, lâche et brutal, ce qui, grâce à quelques petites enquêtes, quelques petits passages à tabac sur la personne d'ivrognes et de clochards, ne manque pas de se réaliser. Ces policiers ne sont pas des hommes, mais des instruments, des outils, des pelles, des balais, qui fonctionne docilement entre les mains de n'importe quel préfet de police en activité. Comme nous avons une solide prédilection pour les sensations fortes, nous tenterons de nous complaire dans une hypothèse gratuite des malheurs qui eussent pu s'accumuler sur la tête de certains d'entre nous si, de septembre 1939 à 1944, notre pays avait dû plier les chines sous l'activité sinistre de pareils représentants de l'autorité. Imaginons. Nous sommes en 1945 et lisons la lettre que l'un de nos amis, perdu de vue depuis le début de la guerre, vient de nous adresser. Au début de 1940, sur le boulevard Saint-Michel, je fus arrêté par des inspecteurs sous prétexte que je faisais peut-être partie de la 5e colonne. Je passai 2 mois en prison, 2 petits mois pendant lesquels j'eus l'avantage de me laisser casser la gueule par des geôliers patriotes. Mon innocence reconnue, on me relâcha amaigri. En 1942, au même endroit et par les mêmes inspecteurs, je fus arrêté une seconde fois sous prétexte que je portais une cravate tricolore et que je faisais peut-être partie de l'intelligence service. Je passai 2 mois en prison, 2 petits mois pendant lesquels j'eus l'avantage de me faire casser la gueule par les mêmes geôliers, toujours aussi patriotes. Mon innocence reconnue, on me relâcha singulièrement amaigri. Or, coïncidence peu vraisemblable, mais cependant vraie, en automne 1944, sur ce même boulevard Saint-Michel et par ces mêmes inspecteurs, je fus pour la 3e fois arrêté sous prétexte que je ne portais pas de cravate tricolore et que je faisais peut-être partie de la 5e colonne. Je passais 2 mois en prison, 2 petits mois pendant lesquels j'eus l'avantage de me faire casser la gueule par les mêmes geôliers de plus en plus patriotes. Mon innocence reconnue, on me relâcha fantastiquement amaigri. Je te laisse à penser ce qui aurait pu m'arriver si au moment de la crise politique de novembre 1945, alors qu'il était interdit de crier « Vive de Gaulle », je me fus avisé de le faire, moi, au nez et à la barbe des 2 fameux inspecteurs, lesquels, comme il se doit, montaient la garde sur le boulevard Saint-Michel. Bon, je vous laisse découvrir la suite, parce que je ne vais pas quand même... J'espère que ça vous donne envie de lire le Brassens de l'époque. Donc là, on a juste retranscrit un des articles, mais vous en avez des centaines.
Le repère à quelle date, là, celui-là ?
Ça, c'est juin 46. C'est juin 46, et donc la liste établie par Fred, ça va jusqu'en donc celui-ci, juin 46, et vous en avez plus d'une centaine, maintenant j'ai oublié, jusqu'à ce qu'il donne sa démission finalement, en décembre.
Tant de temps il est resté que ça, c'était pas pas mal. Après le retour de Stéo, là, quand il s'est échappé, il
restait... Non, mais là, le libre, il était encore clandestin, en 44, et c'est seulement... Alors, il a écrit sur les pages d'un dictionnaire, il a écrit la date où il entre au libre et la date où il en sort en janvier 47. Donc, c'est vrai, et de sa main, il a une culture quand même assez... Donc là, c'est sûr. Il a un de ses copains du Stéo aussi qui va le voir... quand il est à Paris, et il passe ses journées à l'imprimerie du Croissant. Il était payé d'ailleurs, hein, il avait une... Tout ça, vous avez tout ça dans le bulletin interne de l'AIFA de l'époque qui s'appelle Le Lien. Et il y a un numéro en particulier où il y a tous les comptes rendus, on sait à quelle heure commence la réunion, à quelle heure ça termine, on comprend dans les sous-entendus quand ça a été un peu chaud, quand ça commence à... Il y a des histoires de personnes, enfin...
Ah oui, c'était un tirage de presse... Comme on faisait avant, quoi, il fallait mettre toutes les lettres pour faire le.
Ben,
le
à l'imprimerie du Croissant, c'est là que sortait. Lui, il n'était pas le typographe, hein. Il était le secrétaire de rédaction, ça veut dire que c'est lui qui décidait.
Il y
avait
un typographe, hein.
Ben, l'imprimerie du Croissant, c'était un truc énorme. Hein. C'était un truc énorme d'où sortaient tous les journaux. Alors, je ne voudrais pas te faire une liste, j'ai lu ça, je n'ai pas retenu la liste, mais tous les journaux importants, enfin, c'était une énorme imprimerie. Je ne sais pas, alors évidemment, aujourd'hui, ça ne se passe plus du tout de la même façon.
Ah oui, c'est pas la Centrale Libertaire qui avait sa propre imprimerie.
C'était pas la propre imprimerie du Monde Libertaire. Non, c'était pas l'imprimerie. Pas le Monde Libertaire. Le Libertaire. Le Monde Libertaire, c'est après, en 54. Voilà. Et donc, c'est là qu'il passait ses journées. Et sûrement, il a eu des bons contacts, parce qu'après, ben, on a parlé du roman qu'il a écrit. Et il y a un des textes qu'il publie, c'est sûrement publié d'après Fred, parce qu'il est en train de continuer à travailler sur la période. Il pense que ça a été publié justement par les copains du typographe, quoi. Il était vraiment dans son monde, là. Donc là, il n'était pas exactement tout seul. Au départ, il y avait lui, il y avait le Henri Bouillet dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus un certain Marcel Lepoil qu'il a rencontré à l'AIFA. et qui était vraiment sans doute lui aussi très proche de lui assez longtemps. À 7, il y a des lettres qu'ils ont échangées encore jusque dans les années 70. Et il y a une photo de chez Jeanne où on voit quand il est déjà connu, puisqu'il y a déjà René Fallet, etc. Mais il est encore là, Marcel Lepoil, sur cette photo. Donc ils sont vraiment restés en contact très longtemps.
C'était un typographe de...
Non, lui, c'était... En fait, non, lui, il était chauffagiste. Mais tous ces gens-là, Bouillet, il était fleuriste.
C'est le copain de la F1, en fait.
Voilà. Et tous ces gens-là, ils faisaient ça en plus. Mais donc, ils avaient besoin de quelqu'un sur place, parce que le précédent secrétaire de rédaction, en gros, il n'avait pas répondu au courrier. Il y avait eu un monceau de courrier auquel il fallait répondre. D'ailleurs,
il faisait rien, bah. C'est ça qui était incroyable.
Mais là, il travaillait. Là.
Oui, non, mais il était complètement hors de tout système économique.
Après, mais si, alors, si on veut bien connaître le Brassens de cette époque, il faut lire les lettres à Roger Toussenot, où il dit « Envoie-moi le timbre si tu veux que je te réponde. »
Ben ouais, non, mais là, à l'AFA, il travaillait pour que dalle, quoi.
Non, il avait 900 francs d'époque.
Ah ouais, il était payé.
Voilà, il était voilà. Payé, c'est ce ah que ouais. Je vous alors, dis. Oui. D'ailleurs, à son copain qui a été le voir autour d'août 46, on a la citation, il y a la citation dans le livre, il raconte qu'il travaille dans une banque, je crois, près de l'imprimerie du Croissant, et ils se sont vus, il dit, viens, je te paye à bouffer, j'ai un petit salaire. Voilà. Et il lui montrait le journal, il dit, tu vois, là, c'est moi qui ai tout écrit. Donc, il ne peut pas avoir inventé. Ah ouais. Hein. Et d'ailleurs, on le voit dans le catalogue établi par Fred, il y a des numéros où vraiment... c'est pour ça aussi qu'il a beaucoup de pseudonymes après octobre.
Oui, sur tes serons, là,
pardon.
Il vendait le journal.
Ah non, il était secrétaire de rédaction. Ça veut dire qu'il s'occupait de la correspondance et qu'il s'occupait de faire sortir le journal, de recueillir les articles, de les choisir. Des fois, il essayait, avec son copain Toussenot, qui s'intéressait beaucoup à la littérature et au cinéma, il essayait de faire passer des sujets littéraires et cinématographiques, mais les autres n'étaient pas trop d'accord. Donc... Il lui dit d'ailleurs dans une lettre, j'ai beau être secrétaire de rédaction, je ne peux pas faire ce que je veux. Quoi. Donc même il en a fait passer pas mal quand même. Il en a fait passer pas mal. Alors il y a l'autre chose intéressante, c'est que en fait, quand on les lit ces articles, eh bien on retrouve les thématiques. Bon, vous l'avez vu là sur la police, on retrouve ça dans ses chansons, mais on retrouve aussi des thèmes, à peu près tous les thèmes qui traitent par la suite. Donc c'est ça que je trouve formidable, c'est qu'on peut avoir une autre vision de Brassens de l'époque, mais qui est déjà, même s'il n'a que 24-25 ans, qui est déjà celui qui va rester finalement toute sa vie, quoi. Voilà.
Et il est rentré comment, là, dans tout ce mouvement libertaire?
Alors, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Donc, a priori, Marcel Planche, le mari de Jeanne, avait un copain de guerre qui s'appelait Marcel Renaud, qui était un peintre, lui, qui était handicapé aussi. Enfin, lui, il avait perdu une jambe. Marcel avait été gazé et Renaud avait perdu une jambe. Et ils habitaient pas trop loin, donc ils se voyaient sûrement au bistrot. Et c'est par Marcel Renaud, qui était à l'AFA du 15e, que Brassens a commencé à fréquenter l'AFA du 15e. En mai 1946, et donc là, de là, il a, peut-être avant, enfin, en tout cas, il dit qu'en mai 1946, il prend sa carte. Il prend sa carte à la Fédération anarchiste. Et de là, il envoie son texte aux libertaires. D'ailleurs, il va rester à l'AFA du 15e plus longtemps qu'au Lib. Quand il démissionne, en fait, il démissionne, mais il continue à organiser des causeries, comme aujourd'hui.
Ah
ouais, on a une lettre aussi, en fait, au CIRA de Marseille, ils ont les archives d'Henri Bouillet. Et donc, il y a une lettre où il écrit à l'AFA pour leur dire, bon, on a, parce que le Marcel Le Poil en question, il était aussi plutôt dans le courant individualiste, et il a fini lui aussi par quitter l'AFA, mais il écrit à l'AFA pour leur proposer une causerie contradictoire, envoyer un de vos meilleurs orateurs, que, en gros, que ça chauffe un peu, quoi. Il écrit sur un ton un peu ironique, c'est amusant. Donc, il reste encore quelques mois, ça c'est sûr. Et puis ensuite, il décide, il choisit de continuer à travailler ses chansons, quoi. Il choisit de persévérer dans sa... Il va quand même, et c'est là, cette période dont tu parles, où ça va durer jusqu'en 52. Alors c'est aussi un peu par les anarchistes quand même qu'il se forme, parce que... Là, j'ai trouvé une source. Parfois, il vaut mieux croiser les sources. Mais ce serait Henri Bouillet qui lui aurait fait connaître Jacques Grelot, qui était chansonnier, qui était un ex-anarchiste, enfin, peut-être, qui avait cette mouvance-là, sûrement, et qui lui aurait prêté une guitare, enfin, qui lui a prêté une guitare dans une émission de télé. D'ailleurs, il raconte... qu'on lui a piqué ensuite la guitare, enfin, et qui le fait traîner dans tous les cabarets, où il rencontre aussi d'autres anarchistes. Il y avait Léo Campion, qui était le responsable du caveau de la République à l'époque, qui était un franco-belge et franc-maçon d'ailleurs, mais anarch, qui était aussi dans le milieu. D'ailleurs, ils ont participé plusieurs fois à des galas. Il n'était jamais seul dans les galas de soutien, il y avait toujours toute une panoplie de gens. Et puis, il y avait aussi ce Raymond Asso, d'ailleurs, son dernier article dans le Lib, c'était sur la chanson, justement, et sur le spectacle de Raymond Asso, qui était aussi le chansonnier d'Edith Piaf, etc. Donc, avec Jacques Grelot, qui l'a un peu envoyé en pâture devant tous les publics, des petites salles, des cabarets, etc. Il s'est aguerri, en quelque sorte, à son métier. Et c'est de là qu'ensuite, il est arrivé en 52, en janvier 52, amené cette fois par des amis, c'est toi, qui était de, il y en a un qui travaillait à Paris Match, etc., chez Patachou. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc même le début de carrière, finalement, c'est en lien avec tous ces gens avec qui il reste en contact jusqu'à la fin.
Hein. Et la démission, qu'est-ce qu'il y a?
Alors, pourquoi il a démissionné? Alors, on trouve plein de choses, de gens qui parlent à sa place. Donc, moi, je suis assez prudente. On en parle dans le bouquin. Il y a un faisceau d'indices. Mais c'est pas seulement parce que... c'est pas seulement parce qu'on trouve parfois... C'est parce que les gens en avaient marre qu'ils corrigent les fautes d'orthographe. Bon, c'est un peu simpliste. Alors, sûrement que les histoires de scission... Il dit qu'il est anarchiste individualiste et qu'il avait des amis communistes libertaires, même s'il n'était pas d'accord avec eux. Donc il n'a pas rompu avec les communistes libertaires, mais c'est sûr que lui, il n'était pas vraiment libre de faire un journal tel qu'il avait l'idée de le faire. Il devait se plier à certaines directives du comité national. Il le dit à son copain Roger Cousteau, parce qu'il y a un comité national. Voilà, et que des fois, ça... en plus, c'était un gamin par rapport, hein, les autres, c'était...
Parce que l'AFA éditait un journal à chaque ville.
C'est le Lib,
hein, le Libertaire.
Ah ouais.
Voilà.
C'est le journal, c'est l'organe du parti.
L'organe de la fédération, ouais, c'est fédération. Ça. Et donc, il n'était pas libre de choisir vraiment, de faire vraiment son travail comme il l'entendait. Plus, 900 francs à l'époque, c'était quand même pas grand-chose. Et puis, ça lui prenait toutes ses journées, hein, parce que faire un journal, après il est arrivé au bon moment, parce que le journal était devenu hebdomadaire, le précédent secrétaire de rédaction avait été démissionné, lui, et ça lui prenait tout le temps, donc il n'avait pas le temps peut-être de se consacrer aussi à sa vocation finalement, et je pense que c'est un ensemble de facteurs qui ont fait qu'il a compris que c'était pas sa voie. Il le dit d'ailleurs qu'il a failli être journaliste dans une émission, dans une interview, qu'il a failli être journaliste. En fait, il l'a été, il avait sa carte de presse, et d'ailleurs, il a été envoyé par le comité national à la fédération du syndicat de la presse, enfin, à plusieurs reprises. Donc, d'ailleurs, et son dernier article, c'est dans le... c'est pas dans le Libertaire, c'est dans le Combat syndicaliste, c'est l'organe de la CNT qui naît à ce moment-là. C'est son dernier article où il dégomme pas mal la CGT d'ailleurs.
Là, ces articles signés.
Celui-là, il est signé Georges CH, parce que son deuxième prénom c'était Charles Brassens. Celui-là, il est signé de son nom, effectivement. Alors, Fred dit que c'est ça qui déclenche son dossier au RG, mais je pense ça arrive plus tard en fait, donc je pense qu'il y a une autre histoire un peu plus tard, sûrement je pense que parce que son dossier au RG il commence en 49 et après surtout dans les années 50.
Sur les articles que tu as lu là sur la police, c'est facile.
Mais là il n'était pas, non, celui-là il n'était pas signé encore, hein. Celui-là il était anonyme, c'était avant que le Lib devienne avant qu'on se mette à signer les articles. Donc celui-là,
les articles qui sont tous sur cette tonalité-là, c'est-à-dire à la limite de la poésie, de l'humour, de la généralité, ou est-ce qu'il y a des articles où il prend des positions claires sur l'actualité sur...
Alors oui. Alors là, je vous avoue que moi, je les ai lus, mais j'ai fait juste le travail sur le premier, ou vraiment d'analyse, etc. Mmh. Et alors, avec Fred, on a pas mal discuté parce qu'il voulait mettre aussi les thématiques traitées et tout ça. Et en fait, finalement, on ne l'a pas fait parce que ça demande un travail. Justement, ça, c'est le travail qui est encore à faire. Vraiment étudier tous ces textes du point de vue aussi du contenu. Et, alors, il y a beaucoup de choses qui ont un lien avec... avec la résistance et avec les retombées sur les écrivains, parce que son copain Armand Robin, qui était poète aussi, c'était un personnage celui-là, d'ailleurs il est mort dans de drôles de circonstances, il faisait de l'écoute, il parlait je ne sais pas combien de langues, et il faisait de l'écoute, il retranscrivait pour le ministère des Affaires étrangères, et il est mort dans des drôles de circonstances, mais... lui, il avait été mis sur la liste noire du Comité national des écrivains, auquel appartenaient Aragon et Luard, qui en prennent plein leur grade dans pas mal d'articles. Donc ça, c'est un des thèmes qui revient très souvent. Alors, il y a beaucoup de choses sur l'antimilitarisme aussi, sur la résistance ou sur les résistants de la dernière minute. Il y a quelques... Attends, je suis en train de reprendre la... Après, il y a des petits entrefilets, des fois. Donc, évidemment, là, c'est quand c'est très court, c'est plus difficile de trouver les éléments qui pourraient inciter à penser que c'est Brassens. Donc là, je sais que Fred n'a mis que ceux dont il était sûr. Des fois, c'est... Parce que, par exemple, c'est une expression... pas d'argent, pas de Suisse, qu'on retrouve dans une chanson sous une autre forme, pas d'argent, pas de cuisse. Donc là, visiblement, vous savez que vous connaissez sa passion pour les mots. Peut-être il avait dû découvrir l'expression. Alors ça fait 10 lignes ou 5 lignes, mais bon, si c'est pas Brassens, c'est qui a écrit ça, quoi. Il y en a un autre, Fred le dit aussi, c'est sur le cinéma, je crois, et là, c'est signé Marcel Planche. Marcel Planche, c'est le mari de Jeanne. Qui est-ce qui peut avoir signé Marcel Planche à part Brassens? Et puis, il y en a... bon, des fois, les titres... Ah oui, alors, il s'en prend pas mal aux journalistes aussi. D'ailleurs, déjà, dans le premier article, après, j'ai pas tout lu, mais j'ai pas lu la fin, mais donc, les journalistes aussi, ils dégomment pas mal. Le patriotisme, sur la police, les gendarmes... et Luard. Après, il y a aussi, il y en a un qui m'a interpellée parce que c'est sur les mouvements de révolte en Italie en 1946-47, juste après la Deuxième Guerre mondiale en Italie, avant la mainmise de la démocratie chrétienne, il y a eu pas mal de soulèvements, de protestations des rues, etc. Et il fait tout un article là-dessus, donc vraiment sur l'actualité. Et d'ailleurs, je pense pense que j'en avais parlé la fois là, puisqu'il disait, quand on avait parlé du Brassens italien, entre guillemets, parce qu'il disait, en gros, contrairement à ce qu'on dit toujours sur les Italiens qui sont lâches, veulent, etc., même les anarchistes, même Maurice Joyeux, par exemple, disait ça des Italiens, qu'ils étaient veulent, enfin, c'était leur, tous les stéréotypes sur les Italiens à l'époque, c'était ça. Et donc, il montre qu'au contraire, le peuple, lui, s'est révélé, rebellé, et il y a caillassé la police ou quelque chose comme ça. Donc, il y a aussi des articles d'actualité. Mais là, j'ai pas fait le travail vraiment sur... pas encore, donc j'attends que Fred le fasse ou que quelqu'un peut-être le fasse. Mais il y a tout un travail à faire pour voir quels sont effectivement les thèmes les plus importants.
Si je peux reposer une autre question sur le même thème. Ensuite, bon, au cours de sa carrière, est-ce qu'il prend des positions politiques à la montant un peu quand il devient célèbre? Ou alors il se cantonne à un mode d'expression artistique qui est le sien, ou il se met devant la scène?
Alors ça, c'est
pour prendre des positions en 68, par exemple, ou à d'autres moments clés de,
voilà,
de l'histoire.
Ça, on lui a reproché. Mais que faisiez-vous en 68?
Parce que j'ai l'impression que non, c'est pour ça que je demande.
Voilà, c'est ce qu'on lui a reproché. Que faisiez-vous donc en 68? Alors, je crois que dans une interview, il répond qu'il faisait des calculs, parce qu'en fait, il a été malade toute sa vie de...
Il avait des calculs.
D'ailleurs, il semblerait même qu'il se soit soigné très tard parce qu'il pensait que c'était qu'il était très malade à cause de ses calculs alors qu'il était en train de développer son cancer, etc. Donc, alors, il en parle là aussi. Il faut vraiment lire et écrire ce qu'il en dit. Il pensait que c'était pas à lui de monter sur les barricades, que c'est lui qui n'était pas un étudiant, et que d'ailleurs, je crois que je commence l'introduction en disant ça, en reprenant ce qu'il écrit dans son journal, donc intime, et donc il n'aurait pas dit en grand public parce qu'il était trop gentil pour le faire, mais au con, faut leur mâcher les mots. Lisez donc mes chansons, écoutez mes chansons, tout est dans mes chansons. Ouais. Et alors, comme ça m'interpelle quand même ces gens qui disent oh « ouais, il était quand même pas anarchiste, il était vaguement libertaire », mais les gens qui en parlent ne savent même pas trop ce que ça veut dire. Donc j'ai commencé à... Par exemple, j'ai posé des questions à... J'ai une amie qui a... Je crois qu'elle a plus de 90 ans, donc elle a vu naître Brassens. Elle vient d'un milieu bourgeois, son père était militaire. Elle me disait « mais pour nous, c'était... »
Le diable.
Comment ?
Le diable.
Mais non, au contraire, c'était ce qui permettait de voir qu'enfin, il y avait quelqu'un qui nous montrait la voie, qui parlait d'émancipation, et c'était comme une bouffée d'air frais, au contraire. Donc, Claire Ogéas, qui a écrit un article il y a 20-30 ans aussi, elle dit « les femmes, la jeune fille, elle entend, ne gravons pas nos noms au bain d'un parchemin, et donc pourquoi elle va se marier ?» Tu vois, il le dit, il le fait pas... il ne fait pas de ses chansons une profession de foi, mais il, pareil, quand il dit le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit de douillet, ça interpelle quand même, et ça, il ne dit pas n'allez pas au défilé, il dit moi je n'y vais pas pour telle ou telle raison, et après vous faites ce que vous voulez. Tu vois, c'est ça son. Et alors sur l'engagement, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il a fait tous les galas donc du libertaire et après du monde libertaire. Puis du groupe Louise Michel, c'était le groupe du 18e, il a fait des galas pour la peine de mort, il a fait des galas pour les Espagnols. À Marseille d'ailleurs, ça a failli mal tourner. En 50, là c'est Fred qui fait la 56 je crois, bref, la date exacte est dans le bouquin. Il avait un contrat à l'Alhambra et il a fait une soirée au Faro. Pour les copains espagnols, et là ça a failli mal se passer parce qu'il avait signé un contrat d'exclusivité, et donc finalement le mec de l'Alcazar à Marseille bon, a pas fait d'histoire quoi. Et il y a un super article d'ailleurs que j'ai traduit de l'espagnol, s'il vous plaît, qui fait un compte rendu dans Solidaridad Obrera, j'ai bien prononcé. Qui fait un compte rendu de ce concert de soutien, et franchement c'est une des plus belles analyses du texte des chansons de Brassens que j'ai vu, parce que c'est quelqu'un qui le dit humblement, qui lui il n'a pas les mots pour parler aussi bien, mais enfin tu vois, si je fais un peu vite, peut-être je peux retrouver le passage, mais c'est vraiment touchant cette... Donc tu vois, il n'y avait pas photo quoi, et ça a duré tard, parce que dans les années 70 encore, il y a plusieurs lettres, il y a une dame par exemple d'Agen qui lui écrit pour lui demander de venir pendant sa tournée, de passer à quel autre endroit, je pense aussi que c'est à l'époque pour les Espagnols, c'était 72 peut-être, et il lui dit, ben il peut pas, parce que les copains de Marseille s'en souviennent, ça avait fait des histoires, et pareil à Le Poil aussi, encore tard, il lui dit, ben là, à cette date-là, je peux pas, mais je te promets que, enfin, dès que ce sera possible, on
c'est
le fera.
C'est-à-dire
faire
des concerts de soutien pour la Fédération anarchiste, c'est ça ?
Pour la Fédération anarchiste, alors surtout, alors c'est amusant cette lettre-là, parce qu'il parle du temps où ils étaient vraiment très très proches et où ils travaillent ensemble, et il parle de ces gens, en gros, qui leur cassaient les pieds à l'AFA, mais c'était pour, c'était l'époque où, à Toulouse, ils avaient arrêté le banquier là, kidnappé le banquier. Enfin, il y avait pas mal d'actions en faveur des militants espagnols qui étaient.
C'était sur des actions directes, à la fois, je pense.
Ah ben il est. Non, mais lui, il chantait. Hein. Il n'allait pas. Il n'était pas armé. Il n'allait pas faire des discours politiques. Mais il chantait dans ces occasions-là. Il a chanté aussi pour le journal Liberté. Il leur permettait aussi de se mettre en fond, je veux dire. Il a pas mal distribué d'argent aussi, donc on peut considérer aussi que c'est... Mais c'est... D'ailleurs, il le dit qu'il a arrêté de militer, que d'ailleurs, il a eu tort d'arrêter de militer. Mais en gros, tu peux pas tout faire, soit tu écris des chansons, parce que les chansons qu'il faisait, c'était pas des choses qui se faisaient en 5 minutes, quoi.
Si tu veux être créatif, tu peux pas non plus te disperser.
Tu peux pas te disperser.
Mais surtout, je pense qu'il n'était pas dans l'action de... volontaire de changer des choses en force ou en nation. Il dit souvent que lui, il ne pense pas qu'on puisse changer les gens en imposant quoi que ce soit, mais qu'il avait l'impression d'être beaucoup plus actif, à écrire
avec ses chansons.
Avec des histoires qui permettaient aux gens de changer. Quoi. Ouais. Et il y a cette interview où il était avec Brel, où il appelle le curé parce qu'il veut convaincre tout le monde et lui il se croit. Et je pense que la scission qu'il y a eu je fais une imagination là, au sein de la scission de la Fédération anarchiste, c'est ça. Est-ce qu'il y avait un mouvement éducationniste à l'intérieur de la Fédération anarchiste là,
oui, c'est quoi,
déjà de cette époque-là, on pourrait le traiter d'éducationniste,
moi. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais je parlais du roman La Tour des Miracles et tu disais bof. Mais en fait, quelque part, ce roman, c'est comme une communauté, si tu veux.
Oui.
Et c'est des gens qui. C'est complètement loufoque, et je suis d'accord, mais c'est des gens qui sont libres, qui se reposent les uns sur les autres, il y a la solidarité, il y a aussi. L'autonomie finalement, parce qu'il ne demande rien à personne, tu vois, donc c'est assez subtil. Et tu vois, il a lu Proudhon, il a lu Bakounine, il a dû lire pas mal de choses sur les anarchistes, mais c'est vrai que, à part, est-ce que vous savez, je suppose que vous connaissez la seule chanson où il prononce le mot anarchie,
voyons,
au marché de Brive-la-Gaillarde. Voilà, vous avez gagné le premier prix. C'est la seule fois qu'il le prononce, mais parce qu'il le fait d'une autre façon, si tu veux. Il donne pas des. Il dit pas. C'est pas un maître à penser, lui, hein. Mais il le fait d'abord par son attitude, et puis par son discours, son propre parcours. Moi, je pense que c'est presque un manuel, si tu veux, ça peut. Si tu écoutes les chansons,
c'est quand même une grosse différence philosophiquement de penser qu'on peut changer le monde en essayant de changer le groupe avant de changer l'individu, alors que dans les chansons dans l'acte de Brassens. Tous ces chansons conspirent ça. Il veut changer, il veut éveiller l'individu avant tout. Il n'y a jamais aucune volonté de faire croire quoi que ce soit et d'imposer quelques discours que ce soit. Mais par contre, il raconte des histoires.
histoire qui fait que de seul coup, ben, le flic, tu ne peux plus le voir de la même façon, le curé, tu ne peux plus le voir de la même façon,
le
militaire, tu ne peux plus le voir de la même façon, tu ne peux plus voir la vie de la même façon, quoi. C'est ça qui est fort. Mais il n'y a aucune volonté. Et je pense que ça, c'est vraiment une précision dans le monde de l'anarchisme, quoi. C'est deux façons d'agir complètement différentes et qui se retrouvent quand même à l'intérieur de.
Et qui continue de faire scission, parce que sur, à propos de l'antimilitarisme, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je voulais retranscrire. Il y a une émission où il est invité chez Pivot, où il y a aussi le général Bijard et d'autres militaires d'ailleurs qui essayent de. Et si on venait à l'eau, parce que là, le focus est sur Brassens et les autres, ils veulent surtout pas qu'ils disent ce qu'il a à dire. Mais c'est amusant, et Pivot qui dit, mais enfin, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Brassens, on va quand même l'écouter, voilà. Et puis, il en dit tout un tas, et je voulais le faire justement parce qu'il y a eu des... J'ai entendu des choses, enfin, je pense que ses positions ont même été mal comprises à propos de cette chanson « Les deux oncles ». Il s'est fait descendre de tous les côtés, il en parle dans cette émission chez Pivot, en face du général Bijard, d'ailleurs, qui l'encense et à qui il finit par dire « Arrêtez de me faire des compliments, vous allez me faire perdre mon public. » Ça me fait mourir de rire. Mais enfin, il le dit là, mais moi, j'ai jamais pu recevoir des ordres, ni donner des ordres, et je tiens ça de mon père, son père qui avait fait la Première Guerre mondiale. Hein, des gens qui ont fait la Première Guerre mondiale et qui s'en sont revenus, c'est plus boucherie que ça, il n'y a pas... Et Jean Giono, il a beaucoup écrit là-dessus aussi, Jean Giono qui a fait aussi la Première Guerre mondiale, dont on ne connaît peut-être pas très bien tous les écrits pacifistes publiés dans les années 30, et qui a eu pas mal de problèmes aussi après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il n'avait pas pris parti.
Son pacifisme qu'il a,
c'est
qu'il
a son, arrêté. Ouais. Voilà, et bien Brassens, il se situe exactement dans cette lignée-là. Quand sa chanson « Les deux oncles », on lui a reproché de ne pas prendre parti. Mais justement, c'est, lui, il ne veut pas prendre parti, et surtout, ce qu'il dénonce dans cette chanson, c'est le fait que, et c'est ça qui est souvent mal compris, je trouve, c'est que les gens se tapent dessus, en gros, ou surtout envoient les autres se taper dessus, en gros, comme ces deux oncles qui sont morts tous les deux, et ceux qui les ont envoyés, une fois que c'est fini, et ben, ils recommencent à faire des affaires comme avant, comme si de rien n'était. Donc c'est ça qu'il dénonce surtout. Et mourir pour des idées, il dit la même chose, sauf que celle-là, ben, on fait moins d'histoires autour de cette chanson. Mais les deux oncles, comme c'était juste après, ben, encore ces histoires de résistance, des gens qui justement avaient choisi un camp plutôt qu'un autre, contrairement à plein de gens dont
mais
je.
Mais il y avait quand même une véritable volonté de bousculer les idées reçues.
Ah ben ça,
et
c'est
ça,
sûr.
C'est anarchiste dans le fond. C'est une contestation du pouvoir en place.
Ah, c'est sûr, mais là il s'est nourri. Je pense qu'il s'est nourri au contraire de gens ben, comme Le Poil, Renaud, Armand Robin et peut-être même les autres hommes plus d'appareil comme Joyeux, même Fontenès, et tous ces gens-là. C'est sûr, oui, c'est sûr. Après, il y a une autre question, c'est sur le féminisme. Des fois, on me dit alors. À Toulouse, quand même, ils m'ont rappelé le lendemain parce qu'ils avaient oublié de me poser la question. On avait dit bon, une demi-heure.
Ah, c'est quoi la question que vous posez alors ?
Et ben voilà, ils m'ont rappelé, j'étais invitée à déjeuner. Et j'ai dit écoute, là, je reviens si tu veux, mais je suis en train de déjeuner. Non, enfin bref, il a même mis le haut-parleur et tout ça. Il dit alors, est-ce que Brassens était sexiste ? Je dis ben, d'abord, un, t'avais qu'à lui demander. Et deux, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde des chansons. Et donc, moi j'ai des copines féministes, j'ai des jeunes et des vieilles copines féministes, les vieilles l'adorent, et les jeunes me disent « Oui, tu comprends Isabelle, elle reprend tous les archétypes sur les femmes, etc. » Bon, alors c'est sûr que c'est un homme de son époque. Hein, je veux dire, c'est un homme, il est né en 1921, il n'est pas né aujourd'hui. Et donc, après, j'ai eu la curiosité... Donc, je vous ai dit qu'au gala, il y avait toujours des listes. Ils n'étaient jamais seuls. Hein, il y avait même, pour le journal Liberté, il y avait même Johnny Hallyday, pour faire ma parenthèse, dans les années 70. Et donc, dans les années 50, 60, surtout 50, je crois, il y avait un certain Jean Rigaud, humoriste, dont j'ai eu la curiosité d'aller écouter les soi-disant plaisanteries dans des enregistrements. On trouve tout ça en ligne très facilement. Alors, il était invité par les anarchistes, et d'ailleurs, il a même eu droit à une recension par une femme dans le monde libertaire. Donc, pour dire que les choses changent, et alors là, vous avez tous les trucs sur les filles, machin, enfin, je vous passe les détails, c'est vraiment graveleux et même pas drôle, quoi. Donc ça, c'est sûr que c'est démodé. Mais chez Brassens, c'est pas ça, d'abord, comment dire, un, c'est un homme de son époque, deux, c'est vrai qu'il dit du mal de certaines femmes. Mais c'est comme si on a un copain noir.
Pas, et... Ils sont pas du mal.
Bah, quand ils te traitent d'emmerdeuse, d'emmerderesse et d'emmerdante aussi, quand il y a quand même un féminicide dedans, ou une tentative de féminicide quand il dit j'ai voulu brûler la petite cervelle à Marinette. Hein. Sauf que dans l'histoire, c'est le mec qui se fait ridiculiser puisque elle était déjà ressuscitée, etc.
C'est lui qui a l'air d'un con. Ouais.
C'est lui toujours qui a l'air d'un con. Donc,
et
tu vois,
Brave Margot, c'est une femme
forte. Et Brave Margot, voilà. Et puis il a écrit La non-demande en mariage. Il a écrit tout un tas de choses. Il faut mettre dans la balance toutes les choses, replacer dans le contexte déjà. Alors aussi ajouter que quand il est mort, donc chez.
Ce qui est particulièrement étonnant, c'est quand même, c'est toi qui nous l'as. Remet la femme au centre de la préoccupation amoureuse, parce que
tout à fait,
sort d'une période paysanne, ouais, où la plupart des mariages, quand même, c'était des mariages arrangés, encore beaucoup. Il parlait de la femme comme il l'a fait à cette époque-là, c'était révolutionnaire pour le coup.
Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Hein.
Je vois pas en quoi il
dit. Il y a aussi, justement, il a écrit La tournée.
Oui, ça l'a tondu. C'est...
Là, il fallait oser le faire.
Moi, je trouve aussi, ouais. Moi, je trouve. Hein. Moi, alors, je suis peut-être entre deux
c'est
âges.
Pas sexiste, par... c'était référence à quoi, c'est pour ça que je
comprends. Bah, si tu veux, c'est sur les Vénus, les seins, les fesses, les choses-là. Enfin, après, je sais pas, moi, je suis pas...
Après, la génération, là, elles sont sévères. Hein.
Oui, et puis alors, ce qui m'a amusé, c'est que les filles, les femmes, les jeunes collègues qui m'ont dit ça, elles sont déjà has-been avec les féministes qui ont 20 ans maintenant. Oui, mais oui, parce que bon, c'est amusant, parce qu'il y a. Bref. Donc, pour dire, c'est plus des sensations et le bagage culturel de l'époque que vraiment la perception. Et puis, on lui a déjà reproché de son vivant, hein, il le disait, mais. Après, je ne dis pas que c'est toujours de très bon goût, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui sont, enfin, je ne sais pas, forcément, on aime, moi je les aime toutes personnellement, ça me dit rien qui me dérange, mais il y a peut-être des gens chez qui ça fait des échos, ça donne des échos différents.
Voilà. Moi, après, peut-être qu'il y avait aussi un positionnement sentimental qui était particulier, un amour au long cours et des aventures, et quelque part qu'il assumait. Donc bien c'était sûr. Quelque part en mode un peu anarchiste. Non.
Il était ouais, déjà dans le polyamour, voilà. Alors que ça s'appelle comme ça.
Les bourgeois aussi ont ce genre de profil.
Oui, mais je veux dire,
non, mais bien sûr, mais je pense que lui, il en faisait, ça touchait un peu aussi à sa conception de la vie.
Mais
c'était
tout
plus que de l'opportunisme. Ce que
ah oui, mais non, moi je suis d'accord. Hein, D'ailleurs, quand il en parle dans sa chanson Trompette de la renommée, je ne sais plus les paroles, mais si je disais le nom de toutes celles.
De toutes celles avec qui il a couché.
Voilà, en gros. Voilà. Alors, il y a des gens que ça amuse tout de suite. Hein. Là, dans le livre, on n'en parle pas. Alors, même avec Jeanne, qui avait une trentaine d'années plus que lui, donc ils ont vraiment eu une. C'était même touchant comme relation. Mais moi, je ne me sens pas d'aller juger. Enfin, je sais pas, je vais pas voir le
c'est une relation amoureuse.
Point, mais après, ouais,
c'est le thème aussi de la liberté sexuelle qui était un vrai thème libertaire à l'époque. Maintenant, ça peut être devenu, voilà, l'objectivisation de la femme ou de l'homme, même, tu vois, c'est des choses ont changé quand même. Mais à l'époque, voilà, revendiquer une liberté sexuelle. Le côté, la bagatelle, finalement, c'est sympa, il n'y a pas...
On ne le sait même pas.
Des choses sympas de la vie, hein.
On ne le sait même pas.
Non, mais...
On ne sait même pas s'il en avait beaucoup.
Il en avait une
et il l'a gardée pendant 50 ans.
Il met en valeur le fait d'avoir une sexualité gay, épanouie, libre, et voilà.
Ah oui, alors, ouais. Ce que je voulais vous dire là-dessus aussi, c'est que quand il est mort, Donc le médecin qui a écrit les derniers jours, quoi, qu'il a passé chez lui, il dit que sur son chevet, il y avait une grammaire française, les fables de La Fontaine et un livre qui venait de sortir sur le sadisme des femmes. Donc j'ai eu la curiosité de lire le livre en question et ça se revendique comme féministe. C'est une femme qui l'a écrit et elle revendique ça à l'époque, enfin... elle a pris tout un tas de personnages historiques, ben, dont évidemment on ne parle pas, mais qui avaient, de par leur position de pouvoir, fait des choses à des hommes horribles, quoi. Et donc je pense qu'il devait chercher des idées aussi pour des chansons, parce qu'il avait de ces personnages comme ça, féminins, quoi. Donc je ne dis pas que c'était une façon d'être féministe pour lui ou pro-féministe, mais en tout cas c'est un sujet qu'il aimait bien traiter. Comme il aimait bien traiter aussi les chansons paillardes et la musique militaire, il trouvait ça marchait bien à son oreille. Et alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était vraiment un excellent musicien. C'est-à-dire qu'on parle souvent, les gens disent que ça fait toujours poum 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 poum, c'est pas vrai du tout. Et donc, il n'avait pas de formation musicale conventionnelle parce que sa mère n'avait pas voulu, à cause du fait sûrement que sa jeune adolescence a commencé au moment où le cinéma est devenu parlant. Et donc tous les musiciens qui étaient embauchés pour sonoriser les films, en fait, eh bien, se retrouvaient à la rue et elle voyait que c'était pas un métier pour son fils. Et donc elle lui a pas payé. Et c'est sa tante qui l'a développé ça, mais il avait quand même une... Il a été formé en écoutant, il avait un phonographe à la maison, il avait un sens du rythme, il avait la musique en lui, comme il avait une mémoire quand même assez exceptionnelle. Il y a une autre émission qui est super, où il y a une émission qui est géniale, c'est 1979 France Culture, et il y a une émission de télé en 1964, que je crois, chez Michel Pollack, où il est avec son ami René Fallet, et ça s'appelle Les livres de ma vie. Et donc il parle de toutes ses lectures. Et il cite n'importe quel auteur, et ça lui vient comme ça. Il est capable de citer une page entière d'un roman qu'il a lu. C'est assez exceptionnel quand même, hein, cette mémoire.
Sur le mouvement anarchiste, là, qu'il y avait des décisions à l'intérieur de ce mouvement anarchiste à cette époque-là? Ou pas, ou
ben
c'était,
oui.
Ou c'était quelque chose
de... Ben oui, 1953.
Avant, c'est en 1953, avant qu'il parte, ou là, au moment où il est parti, du moins.
Ben, ça a pris le temps, si tu veux, avec la première.
Est-ce que son départ, c'était lié à une scission qu'il avait, il s'est retrouvé éjecté, ou si finalement...
Non, pas du tout. Alors, Henri Bouillet, qui était le secrétaire national de l'AFA, il avait la charge, il avait été actif déjà pendant la résistance et il avait la charge de réunifier les mouvements qui avant la Deuxième Guerre mondiale déjà étaient séparés. Alors c'est Sylvain Boulot qui explique ça très bien. J'ai pas tous les sigles qui n'arrêtent pas de changer en tête, mais donc il y avait, si tu veux, déjà les deux courants en gros avant-guerre. Et donc Henri Bouillet a été désavoué parce que justement il n'a pas réussi à faire cette unification. Mais donc, en 1946, au congrès d'octobre, qui est-ce qui prend la place de Bouillet, qui était déjà parti plus ou moins? C'est Georges Fontenis. Georges Fontenis qui, en 1953-54, justement, va transformer l'AFA en Fédération communiste libertaire. Et c'est là que Maurice Joyeux et d'autres créent l'autre journal qui va devenir Le Monde libertaire. Et Brassens, il est déjà célèbre à cette époque-là. Il est déjà sorti depuis plusieurs années. Mais si tu veux, cette scission qui arrive en 1953-54, elle était déjà en acte. Elle était en acte déjà même avant la guerre. Et il y avait ces histoires de personnes. Une fois, il a voulu faire venir Bouillet, parce qu'il recevait des critiques sur le journal. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, machin. Il faut que le comité national puisse décider. Enfin. Et donc, une fois, il a voulu faire venir Bouillet, qui était quand même celui qui avait la plus grosse pratique du journal. Et on le comprend au compte-rendu. Ça s'est hyper mal passé.
Pourtant, le mouvement communiste, il était présent et indépendant.
Communiste libertaire.
C'est pas
les communistes,
là. C'est ceux, si tu veux, qui avaient plutôt une vision...
Collectiviste.
Si tu veux, pour simplifier, oui. Si tu veux, c'est comme l'UCL, il ne s'appelle plus l'UCL maintenant. Il s'appelle l'UCL. En gros, c'est ça, un petit peu, c'est les héritiers, quoi, de ces histoires-là. C'est toujours un peu la même chose, finalement.
Quand il a écrit l'Auvergnat, Brassens, moi j'avais une façon de l'écouter, et après j'ai entendu une interview où il parlait de Juliette Gréco qui avait repris sa chanson, et il était aimable hein, vis-à-vis de Juliette Gréco, mais il a dit que il voyait pas les choses pareilles qu'elle, parce qu'elle elle était un peu rageuse contre les croquants, les croquantes. Et lui, c'était doux, quoi. Il était,
Il
revendiquait qu'il était gentil par rapport aux croquants. Il les attaquait pas de front comme Juliette Gréco le faisait.
Quand
j'ai entendu ça, j'étais un peu déçu, parce que moi j'aime bien Brassens et j'étais plus dans l'idée de le message que fait passer Juliette Gréco. J'aurais pas entendu cette interview, j'aurais même pas.
J'écouterai à l'occasion, voilà. Je la connais pas celle-là.
Oui, effectivement, il y a peut-être l'idée que voulez-vous, ils sont idiots, c'est comme ça. C'est peut-être un petit peu sa philosophie par rapport à la réalité. Et alors, quand il parle de la police, c'est un peu ça. Il dénonce, c'est pas forcément une accusation, c'est un constat. Et voilà, il y a des gens qui sont limités. Et ça fait le bonheur des systèmes totalitaires, il faut bien le dire. Mais. Pour ce qui était de la sur les femmes, une question, moi je me souviens d'un passage, au moins dans une chanson, il va embrasser sa copine, enfin la fille, une fille, et lui, elle a dit non et elle m'a laissé faire. Non, les filles, c'est comme ça.
Mais
ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, effectivement, oui, c'était comme ça. Mais le pourquoi c'était comme ça, c'était intéressant de voir en fait la nécessité à l'époque de dire toujours non. Et parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait pensé si elles avaient été d'accord?
Fondamentalement.
Ouais. Ça rappelle une réalité. Et on ne peut pas non plus, si à ce moment-là, si on commence à le voir avec une vision de.
De
féministe télévisé d'aujourd'hui, parce qu'on sait bien que les féministes qui passent à la télé, c'est celles qui servent d'épouvantail, le plus souvent, hein, et qui permettent effectivement, qu'on comprend du coup qu'on ne fasse surtout pas ces scènes-là, parce que, il faut.
Consolider le machisme, tu veux dire.
Non, il faut surtout que les gens se rendent compte à quel point. Les gens qui défendent effectivement le féminisme ou quoi que ce soit sont des gens extrêmement dangereux et qu'il vaut mieux voter pour des gens qui soutiennent la finance.
Ce que tu dis, ça fait penser à deux choses. Ça me fait penser déjà à la complainte des filles de joie et à la lettre que le comité des prostituées de l'époque là, qui s'était constitué lui avait écrit pour le remercier de cette chanson. Ça c'est vraiment touchant. Et l'autre chose, donc j'ai lu aussi parce qu'il avait pas mal d'amis, ensuite écrivains, etc. Et on avait un qui s'appelle André Verse. Et il n'a pas écrit énormément de bouquins, mais il a cherché un peu sa voie comme écrivain. Il n'a pas. Enfin, ça ne me dit rien, je pense, son nom, parce qu'il n'a pas vraiment percé, quoi. Mais il en a un où il a un de ses romans où il écrit un peu sa jeunesse aussi d'homme frustré parce que c'est compliqué justement d'avoir des relations sans être marié. Et comme le disait Brassens, en gros, pourquoi tu vas avec la femme adultère? Parce que pourquoi tu as une relation adultère? Parce que la femme mariée, elle n'a pas de problème. Alors que. Donc c'est vrai que c'est. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas connu cette époque-là, mais. Replacer dans le contexte, ça peut être aussi utile à comprendre parce que ça, enfin, c'est pas simple à gérer. À l'époque, les femmes qui avaient un enfant hors mariage ou qui, enfin, ou qui était obligé de se marier avec quelqu'un dont elles n'avaient plus envie, ou, enfin, franchement, c'est important cette histoire-là. Bon, moi, j'avais lu le roman un peu pour voir, je crois qu'il est un peu plus jeune que Brassens, mais pour voir un peu comment pouvait réfléchir aussi un homme à l'époque, quoi.
Il faut quand même pas oublier que c'était pas qu'une question de moralité héritier de la religion catholique, etc. Concrètement, de façon institutionnelle, le divorce était très compliqué. Il n'y avait que le divorce pour faute. On ne vous autorisait pas à divorcer s'il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas des fautes. Et d'où les jusqu'aux années, début des années 70, où il y avait les avocats qui faisaient des lettres d'insultes, qui faisaient réécrire des lettres d'insultes, bien pesées pour que, effectivement, les fautes soient partagées. C'est ça. Une chose intéressante, c'est que dans la religion catholique, il y a des cas d'annulation du mariage. Au niveau du mariage laïque, c'est beaucoup plus compliqué. C'est, effectivement, il y en a pas, ils ne sont pas repris. La femme de Verlaine avait pu divorcer parce qu'il avait tiré sur Baudelaire, sur Rimbaud en Belgique. Donc sinon, il avait été en prison. Il était alcoolique, il était extrêmement violent, il avait frappé elle, même son fils qui était, leur fils qui était très jeune. Ça permet aussi de faire ressortir certaines réalités qu'on aurait tendance à oublier.
Oh, ben moi je pense quand même qu'il doit avoir des petites ombres quand même, des petits points d'ombre, le père Brassens, on ne va pas l'encenser à 100%, même si on adore ses chansons, enfin, il y en a certaines que j'aime moins et tout,
après,
quand
le,
même,
le truc, c'est que...
parce que c'est l'artiste, on ne va pas l'encenser, il doit avoir des petits trucs.
Non, mais moi je suis d'accord, parce que après c'est sûr qu'on a chacun son Brassens, forcément tu t'identifies aussi. Je veux dire, quand tu veux comprendre une chanson, c'est un peu ce que tu disais. Quand tu veux comprendre une chanson, ça évoque des choses chez toi aussi. Donc peut-être que tu as envie de l'entendre comme ça te fait plus plaisir l'entendre. Mais c'est ça aussi une œuvre.
En plus, suivant les époques, quand je l'écoutais il y a 40 ans, que je l'écoute maintenant, il y a des mêmes chansons, on ne ressent pas tout à fait les mêmes
choses.
C'est
sûr, mais ça, c'est la marque aussi du génie. Disons-le quand même, parce que c'est, il y a plein d'auteurs qu'on peut plus écouter maintenant, alors que lui on peut l'écouter quoi. Enfin,
moi,
je crois vraiment, y compris du point de vue de la musique. Moi j'adore Brel, mais il y a plein d'orchestrations de Brel, ça sonne plus comme maintenant, alors que ce qu'il a choisi. Il y a aussi un texte sur la musique, je crois que je l'avais fait déjà pour le calendrier. C'est un guitariste, je crois qu'il est du coin d'ailleurs. Qui raconte pourquoi la musique de Brassens c'est génial. Et il explique ça justement, c'est bon, d'abord parce qu'on trouve des choses qu'on trouve aussi, je sais pas, il prend des exemples chez Mozart ou etc. Mais aussi parce qu'il s'est vraiment donné sa marque à lui, quoi. Il s'est vraiment choisi un style qu'il a imposé.
Il s'est mis un jeu dans les chansons tout le temps. Ça, c'est
moi, c'est un rôle que j'ai un copain à Lunel, qui est Ludovic, qui s'appelle. C'est un excellent réparateur de chaînes-fils, de télé, ça, c'est un électronicien. Et je suis devenu copain avec lui, parce que je lui ai apporté des trucs à réparer, et j'avais des relations amicales. Et peut-être je lui ai parlé de moi en tant qu'anarchiste, mais pas plus, c'était pas notre conversation principale. Il me parlait beaucoup parce qu'il s'intéressait à la physique, alors qu'il n'avait pas fait d'études de physique. Il me posait beaucoup de questions, il lisait des bouquins de vulgarisation. Et un jour, je le découvre, il s'est laissé pousser la moustache, et puis il a une guitare, il a appris à en jouer, enfin il s'est perfectionné, il savait déjà jouer à part chose. Et il joue Brassens, et il se produit devant des publics, hein, il y a des affiches et tout, et il est devenu anarchiste à travers Brassens. Alors maintenant je discute avec lui, et on discute d'anarchie, et voilà. Et c'est à travers Brassens qu'il est devenu anarchiste.
Pas tout le monde. Hein.
Et ça fait 30 ans que je le connais, ce mec, mais j'ai passé 10 ans à le connaître, à être assez intime avec lui quand même, et sans me douter qu'un jour il deviendrait anarchiste.
Oui, la mère de Laurent, ça aussi.
C'est mes parents qui m'ont fait connaître Brassens. Moi, j'avais des disques de Brassens et mon père était militaire. Bon, disons, ils étaient du centre droit et trucs comme ça, mais je veux dire, ils n'ont jamais été anarchistes. Et ils aimaient, comme tu disais, pour le truc de Bijan. Et c'est eux qui m'ont fait connaître.
Oui, parce qu'il y a des chansons qui sont plus. Je dirais même pas neutres, mais. Je sais pas, le parapluie, par exemple.
Oui.
Mais en même temps, c'est jamais mièvre.
Mais il est pour les baleines.
Les baleines, le parapluie.
Le parapluie.
C'était écolo, ça. C'était pour les baleines.
Alors, on
non,
chante.
C'est pas vrai.
On d'abord. Chante. Hein.
Bon, j'éteins alors.
Bon, ben, merci à vous.
Merci.
Merci.
Ouais.
Merci à vous pour les questions et on chante. Alors, ah, c'est, je fais la distribution.
Non, non, Laurence, c'est elle qui l'a fait.
Oui, il me disait qu'elle était enregistrée la soirée.
Oui, là.
Ah, c'est ça qui enregistre.
Mais, ne crie pas, je l'enlève. Vous voulez la chanter?
Non, parce qu'il y a mon gendre, le copain d'Inès, qui devait venir, normalement. Il ne fait que chanter pour ça.